Donc on va pouvoir démarrer l'exposé avec Aziz Balouche, qui est chercheur et responsable d'un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire d'études environnementales des systèmes anthropisés, c'est-à-dire là où l'homme est intervenu. Et la question qu'on s'est posée, c'est de savoir si la nature était si naturelle qu'on le pense, qu'on le dit, dans la mesure où l'homme est intervenu, l'espèce humaine est intervenue en tant qu'artisan des paysages depuis très 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 longtemps. Et c'est là-dessus qu'une partie de vos études porte, cette étude sur l'intervention de l'homme et des paysages depuis des millénaires et depuis le néolithique au moins. Je vous passe la parole, je vais monter le son s'il n'est pas suffisant.
Merci, merci beaucoup. Je vais commencer rapidement par me présenter parce que et faire une toute petite rectification par rapport à ce qui est marqué sur le programme concernant mon statut. Hein, donc je suis universitaire et je suis à l'Université d'Angers. Sur le programme, vous avez vu, il est marqué Faculté d'Angers. Je suis un tout petit peu sensible à la chose, tout simplement parce que à Angers, comme dans 5 autres villes en France, nous avons une exception, c'est l'existence d'universités privées, hein, d'universités catholiques de l'Ouest, hein, puisque les instituts catholiques ont le droit d'utiliser ce terme d'université. Et dans la région, quand on dit la faculté d'Angers, on pense plutôt à l'université catholique. Hein, donc moi, je suis bien de l'université d'Angers, université publique. Hein, donc bon, je m'entends bien avec mes collègues de l'université catholique, hein, qui sont des enseignants-chercheurs qui travaillent dans des conditions souvent comparables aux nôtres, parfois plus difficiles encore, puisqu'ils sont sur des statuts qui sont peut-être moins protégés que les nôtres, mais voilà. Cette parenthèse étant faite, donc, moi je suis géographe, à la demande de ma collègue Francesca Di Pietro, il y a quelques semaines, j'ai commencé à réfléchir à un sujet présenter effectivement cette question de l'impact des activités humaines sur le milieu, sur la nature. Et bon, j'ai changé mon exposé jusqu'à ce matin. Hein. Vous allez voir, l'idée c'est d'entamer une discussion. Je vous proposerai un exposé peut-être d'une part un peu général, puis sur deux exemples. Hein, de cette place que les sociétés tiennent dans la construction des paysages. Hein, et je reviens bien et je précise bien ce terme de paysage. Donc, ces exemples pourront nous permettre éventuellement de discuter et d'échanger ensemble sur cette question très, très importante. Je ne remonterai pas forcément au néolithique, vous allez voir, le temps va être un peu discontinu dans ce que je vais vous raconter. Et puis, dernière précision avant de commencer cet exposé, cela a été dit, donc j'appartiens à un laboratoire qui est un laboratoire associé au CNRS. Ce que je vais vous raconter, évidemment, c'est des travaux qui sont dans lesquels je suis impliqué, mais c'est un travail collectif, hein, de nombreux collègues, des jeunes chercheurs, doctorants par exemple, avec lesquels j'ai eu à travailler. Donc voilà, ce n'est évidemment pas un travail personnel. Alors cette question du rôle des sociétés humaines dans la construction des paysages et la relation à la nature nous pose un certain nombre d'interrogations parce que effectivement le terme nature est un terme qui est utilisé très fréquemment dans des sens multiples avec des significations qui méritent peut-être un tout petit peu de clarification. C'est bien en commençant à parler de dire ce qu'on entend soi-même et puis ensuite éventuellement en discuter avec les autres, mais comment est-ce que je conçois ces différents termes dont je vais parler ici. Et en particulier parce qu'il y a de nombreuses confusions, de nombreuses définitions. Confusion, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont dans le vrai et d'autres qui sont dans le faux, systématiquement. Mais voilà, la façon dont on aborde ces questions son multiple. Alors pour moi, je pars du principe que j'utiliserai le terme de nature en parlant effectivement des éléments de notre environnement, bien des éléments de notre environnement, du milieu, hein, qui seront considérés comme éléments de nature. C'est comme ça, physique, hein, abiotique, non vivant, ou biotique, vivant, la faune, la végétation, les sols, hein, qui sont un élément vivant de notre environnement. C'est cela, hein, que je vais utiliser. C'est de cela que je parle quand je parle de nature. Ceci dit, cette nature, entre guillemets, naturelle, hein, on part du principe qu'elle est anthropisée. Hein. Elle subit, elle connaît les actions de l'homme depuis plus ou moins longtemps. Donc la nature naturelle, entre guillemets, même quand on utilise ces termes, on entend bien que les activités humaines existent effectivement à la surface de la Terre depuis des temps anciens. Et donc la nature dont nous avons aujourd'hui est une nature dont il faut accepter ces dimensions anthropisées. Et nous, géographes, on s'appuie souvent sur des façons d'aborder la nature. Hein, et un géographe toulousain, Georges Bertrand, avec son épouse, Claude Bertrand, ont développé hein, ce concept du géosystème qui associe évidemment, comme dans le concept d'écosystème, ces éléments biotiques et abiotiques en interaction, hein, mais en y incluant les systèmes hein, des sociétés. Alors, je vais rester sur anthropique. Hein, je n'utiliserai pas le terme des systèmes sociaux parce que ça mène beaucoup plus loin, ça suppose des précisions de langage. Quand je parle d'anthropique, disons qui implique les hommes, hein, voilà, hein, sans rentrer dans la complexité de l'organisation des sociétés. Et cet impact des hommes, des sociétés, hein, on va le prendre comme agissant a priori dans les milieux et non pas introduit a posteriori comme une perturbation. Donc ça, c'est des idées qu'il faut préciser. Donc la nature, pour moi, elle est conçue comme cela. C'est le premier aspect. Deuxième terme sur lequel moi j'aime bien faire une précision hein, vis-à-vis des étudiants, c'est le terme d'environnement. On a souvent tendance à utiliser de façon confuse justement ce terme d'environnement en le réduisant aux aspects naturel. Hein? Et du coup, là aussi, il est important de préciser que lorsqu'on parle de notre environnement, hein, on doit savoir qu'effectivement, il existe des éléments naturels, des éléments forgés, produits par l'activité des hommes. Et ce terme d'environnement est très important à distinguer quand même de la nature même anthropisée, parce que le terme d'environnement, c'est ce qui est autour de nous, c'est notre environnement, et donc le terme d'environnement, pour moi, doit se concevoir comme quelque chose qui se réfère aux sociétés, c'est-à-dire, si on parle de nature, elle existe, elle a préexisté aux hommes, même si aujourd'hui elle est fortement, anthropisée, le terme d'environnement, il vaut mieux le circonscrire à ce qui est autour de nous. Hein, l'environnement, ben, il se définit pas en soi tout seul, il est effectivement l'environnement de nos sociétés. C'est comme ça qu'il faut le concevoir, en tout cas dans le discours que je vais vous tenir, et le considérer comme effectivement le cadre dans lequel les sociétés vivent et se développent. Voilà deux précisions pour moi importantes pour qu'on puisse se comprendre. Et puis vient le terme de paysage. Comme on dit souvent, nous, on utilise ce terme de polysémique, en insistant sur les sens multiples que le terme de paysage a. Effectivement, c'est un objet d'étude de très nombreuses disciplines. Et c'est aussi un terme du langage courant. Tout le monde, parmi nous, parle du paysage, va... se promener, observer, contempler le paysage, donc il y a une dimension qui est sensible, esthétique, etc., dans ce terme de paysage, c'est un mot du langage courant. C'est aussi un mot hein, qui y a des sens multiples pour les disciplines qu'il utilise, mais pour qui ? Alors, les paysagistes, les aménageurs du paysage, les différentes disciplines scientifiques, que ce soit l'écologie, il existe une écologie du paysage, que ce soit la géographie, et puis il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des historiens, il y a des anthropologues qui travaillent sur le paysage. Et donc, les conceptions de chacun, les définitions de chacun peuvent parfois même s'opposer. Hein ? Et voyez cette dimension sensible, esthétique d'un côté, et une dimension qui correspond plus aux entrées des sciences de la nature, peuvent diverger. Et le terme est très très important, il contient une forte part de subjectivité. Il faut l'accepter. Et donc ce terme de paysage, pour moi, ou en tout cas dans l'acception que je vais utiliser ici, je le distingue effectivement de cet aspect naturel, etc. C'est une construction avec des structures spatiales, chose, mais au moins deux caractères en tout cas sont importants pour moi. La dimension construite du paysage, hein, c'est, comme disent des écologues du paysage, Françoise Burel et Jacques Baudry, la résultante d'une confrontation des sociétés à leur environnement, hein, des sociétés et de leur milieu. Donc il y a une dimension construite. Après on peut en discuter, mais le paysage est effectivement marqué par cette activité des hommes, donc il est construit. Et puis il y a une deuxième dimension très importante pour beaucoup de spécialistes du paysage, c'est la dimension plus sensible, vécue, hein, que l'on retrouve dans un texte qui fait l'objet de beaucoup de discussions. La Convention européenne du paysage définit le paysage, hein, vous le voyez, comme cet espace, cette partie du territoire perçu par les populations. Alors ensuite, on dit que la définition de cette convention dit que ce paysage résulte de l'action de facteurs naturels ou anthropiques, mais surtout, cette convention parle de cette dimension perçue. Alors cette dimension perçue, elle est toujours plus ou moins présente dans l'idée de paysage. Alors tous les spécialistes, selon leur discipline, ne la considère pas avec la même importance. Hein. Mais pour moi, elle a un intérêt particulier, vous allez voir. Donc voilà, un double sens, effectivement, et dans cette idée de la construction des paysages et éventuellement de leur perception par des individus, par des groupes sociaux, par des sociétés, hein, il est important de revenir sur le fait que les sociétés, du coup, sont, hein, le facteur moteur, hein, à la fois d'explication, à la fois des structures du paysage et de leur évolution ou de leur fonctionnement, de leur dynamique. Hein. Donc, du coup, c'est en cela que, moi, en tant que géographe du paysage, hein, je m'intéresse à cette thématique spécifique de la place des hommes dans la nature, et donc l'entrée par les paysages est une très bonne entrée pour pouvoir, hein, donc, maîtriser peut-être ces questions autrement que de la façon dont le fait par exemple l'écologie, hein, autre discipline qui s'intéresse beaucoup au paysage. Et la spécificité des géographes, c'est de travailler sur cette interface entre les sociétés et leur milieu, leur environnement. Donc voilà grossièrement, si vous voulez, les entrées générales. Alors, dans mon travail, hein, j'ai toujours pris en compte cette double, je vois sourire des Normands, on va parler de Normandie, hein, j'ai eu toujours à prendre en compte cette double dimension du paysage, c'est-à-dire la réalité matérielle, et qui va, elle, dépendre des systèmes naturels ou des systèmes de production, par exemple des systèmes anthropiques qui la construisent. Hein, et donc, cette réalité matérielle reflète ces deux volets. Et puis, je me suis, malgré ma formation plutôt de naturaliste, de plus en plus intéressé à la question des représentations que les sociétés ont de cette réalité. Alors ce n'est pas ma spécialité scientifique, ce travail sur les représentations. Hein, il y a des gens qui font plus dessus. Mais cette représentation est très importante pour nous parce que c'est celle qui va, entre autres, conditionner ou déterminer la façon dont les groupes humains vont se comporter vis-à-vis de leur environnement. Et si le paysage est justement cette résultante de la confrontation des sociétés ou des groupes humains à leur environnement, la façon dont ces sociétés se représenteront, hein, vont avoir à construire des modèles, hein, de cet environnement, de la nature, entre autres, hein, déterminera très fortement la façon dont ils vont se comporter vis-à-vis de cet environnement. Alors c'est une question importante pour moi parce que une grande partie de mon travail porte sur des régions entre guillemets plus exotiques que celles qui est illustrée ici. Hein, je travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, sur des milieux où les sociétés qui agissent ont parfois des approches, des représentations très éloignées des représentations couramment admises chez nous, et donc c'est très très important de tenir compte. Lorsqu'on travaille sur de l'évolution dans le temps long, il est important aussi de savoir que si on parle de paysages du néolithique, on va en parler très loin, mais si on ne parle que des paysages du siècle précédent, ou d'il y a 2-3 siècles, on avait des sociétés qui n'avaient pas le même regard sur la nature, sur les faits qui les environnent, et donc leur comportement, la façon dont ils vont agir sur un milieu sera très différent. C'est quelque chose qu'on va trouver en particulier, je vais parler de l'Afrique de l'Ouest, et bien la façon dont on va aborder le feu, feu de brousse, le feu comme objet de maîtrise de la nature, de transformation du milieu, ou la façon dont on l'aborder les forestiers, pour qui c'est un élément destructeur, hein, changera très fortement, bien évidemment, la façon dont on va traiter la nature. Toujours avec une finalité, mais qui n'est pas obligatoirement la même. Je travaille beaucoup à l'Université d'Angers, où nous sommes plutôt spécialisés sur les milieux humides, hein, liés les milieux de mares, de marécages, de fonds de vallée, etc. Et la façon dont on se représente ces milieux, ces zones humides, c'est quelque chose de classique, on le cite très fréquemment, alors que pendant des siècles, on a vu ces milieux comme répulsifs, dangereux, etc., et que on a bonifié les terres. L'assèchement des terres, ça s'appelait de la bonification. Hein, la politique de longue date d'aménagement des espaces ruraux s'est appuyée sur ces asséchements des marais. Et c'était quelque chose de très positif que d'assécher les marais pour gagner de bonnes terres. Aujourd'hui, on a changé très fortement de vision sur ces zones humides, hein, et on leur a attribué une valeur importante, valeur intrinsèque en termes de biodiversité. Hein, elles ont une valeur en tant que telle, et cette vision plus positive a changé complètement le comportement. Les zones humides sont l'objet de législation ou de réglementation de la protection de la nature le plus important aujourd'hui. Hein. Donc voilà ce genre de choses. Donc ces représentations sont importantes, et quand on appartient aux sciences de la nature, quand on appartient à cette entrée entre guillemets naturaliste de notre environnement, il est important de tenir compte de ce volet qui peut introduire une forte subjectivité dans les aménagements ou dans les politiques environnementales. Enfin, donc voilà un peu le terme général, si vous voulez, que je voulais fixer avant d'aller un peu plus loin. Alors cette question de la confrontation, comme disent Burel et Baudry, continue, introduit bien évidemment la dimension temporelle, hein, et l'évolution de ces paysages. Hein. Et donc si on parle de l'action des hommes sur leur environnement, il est important de voir que cette action agit sur l'évolution, hein, de nos paysages, donc sur leur histoire. Hein. Et cette action des hommes, hein, va bien évidemment nous amener à essayer de comprendre comment, dans les paysages, c'est-à-dire tels qu'on les voit aujourd'hui, hein, se sont stratifiées, couche après couche, ces modes d'occupation du sol qui sont aujourd'hui fonctionnels ou qui ne le sont plus, aujourd'hui disparus. Et donc, c'est cette réalité des paysages actuels, elle intègre, elle a stratifié donc toutes ces occupations du sol qui se sont succédées, qui bien évidemment ont connu des conditions naturelles différentes, climatiques éventuellement, mais pas uniquement. La nature des sols a pu changer. Bien évidemment, les changements techniques, les changements de mise en valeur, les changements socio-économiques, la densité des populations, les techniques de mise en valeur, les systèmes de production vont changer, et du coup, effectivement, la façon dont les sociétés aménagent, agissent, peut changer. Et puis, évidemment, il y a ce dernier volet que je citais tout à l'heure, qui nous est beaucoup plus difficile à connaître, d'ailleurs, qui concerne ces changements de représentation. En particulier, par exemple, les changements d'interprétation, les dimensions symboliques, etc., que l'on accorde à certains éléments du paysage, peuvent changer. Donc, cette dimension culturelle, entre guillemets, qui reste toujours importante. Et on n'imagine pas la façon dont ces changements ont impacté le rôle des hommes, par exemple, sur des espaces des pays du Sud, depuis la fin du 19e siècle, ou même avant, lorsque on a vu arriver, effectivement, de nouvelles idéologies, religieuses en particulier, imaginer la relation que des sociétés qu'on appelle traditionnelles avaient à leur environnement dans un contexte d'islamisation, de christianisation importante qu'on a pu connaître à l'époque coloniale. Donc tout cela change énormément. Mais on peut considérer aussi dans les régions, aussi avec ces changements idéologiques qui se produisent dans le temps. Donc voilà les dimensions historiques que l'on va. Et du coup, nous, géographes, on utilise souvent un terme intéressant, fréquent, qui fait un peu pédant, mais qui signifie bien ce qu'il veut dire, le terme de palimpseste, qui est le terme médiéval. À une époque où le papier était rare, eh bien, on écrivait, on réécrivait sur le même support, en effaçant. Et donc cette idée, c'est qu'un paysage que vous observez aujourd'hui, eh bien, évidemment, il rencontre des systèmes aujourd'hui fonctionnels qui le produisent, mais il n'a jamais complètement perdu les traces des systèmes antérieurs qui ont agi dessus. Et parfois, dans des conditions qui peuvent être extraordinairement en décalage entre ce qu'on imagine être un paysage aujourd'hui et finalement les systèmes qui l'ont produit. Vous le savez, ça a conduit à se poser des questions sur le rôle des agriculteurs dans nos paysages, dans un système de production aujourd'hui très productiviste, qui amène des changements techniques, donc des changements dans le milieu et des changements de paysage, alors que l'attente qu'un certain nombre d'entre nous avons de ce que devrait être un paysage dans lequel on se sent bien ou que l'on imagine comme étant celui qui devrait être, eh bien les systèmes de production ne sont plus en état d'entretenir cette image du paysage. Et donc, ces décalages sont très très intéressants. Il faut voir comment est-ce qu'on peut les lire dans ce genre de choses. Et donc, l'idée, c'est d'illustrer, cette longue introduction générale, d'illustrer en deux exemples. Et donc, du coup, on peut rester sur un exemple entre guillemets exotique et un exemple qui est plus proche de nous pour pouvoir ensuite avoir une discussion. Alors les paysages de l'Arganeré, je me suis longtemps posé la question plutôt de vous parler de paysages tropicaux de savane, mais puis je me suis dit l'Arganeré marocaine, j'en rentre, je viens de passer un peu de temps sur le terrain, et donc je suis revenu sur cette question de l'Arganier, que beaucoup de gens connaissent désormais. Vous allez voir qu'il y a un intérêt particulier pour cette espèce qui est l'araignée. Et puis, un exemple plus proche, plus court dans le temps, qui est celui de la basse Normandie et des paysages de l'herbe, tels qu'on se les imagine aujourd'hui comme paysage emblématique de la Normandie. Alors, l'araignée, très, très rapidement, c'est une espèce dont on parle beaucoup, hein, qui est dans l'actualité. Aujourd'hui, par un intérêt particulier pour l'huile, hein, que produit cette espèce, je vous en dirai un peu plus, et puis pour effectivement son caractère biologique, hein, les scientifiques s'y intéressent également, parce que cette espèce construit des paysages qui sont vus comme très originaux, à la fois par leur aspect, et puis par leur composition floristique, hein, donc leur physionomie et leur biodiversité. Alors, l'araignée, c'est une espèce dite endémique, hein, on considère qu'elle est endémique du sud-ouest du Maroc, hein, pour l'essentiel. Le bassin de la vallée du Souss, vous voyez, Agadir, on connaît un peu ces points-là. Et donc, cette espèce, hein, a constitué ou constitue aujourd'hui des peuplements donc de forêts très claires dans cet espace. L'espèce endémique, c'est-à-dire restreinte à cette zone, elle n'existe pas ailleurs. Hein. Alors, il existe à l'échelle du nord-ouest de l'Afrique deux autres peuplements, dont un dans le nord-ouest, dans le nord-est du Maroc, hein, dans la région de Rabat, et puis quelques individus, hein, qu'on va trouver bien plus loin, dans la région de Tindouf, en Algérie, dans la haute vallée de la Saghi al-Hamra au Sahara occidental, mais c'est que des individus, donc c'est bien une espèce endémique. Elle appartient à la même famille que le karité, si vous connaissez donc ce karité, et les sapotacées, ce sont des espèces qui produisent de la matière grasse, hein, c'est quelque chose qui vous connaissez. Cette arganerie, elle est caractérisée par une flore tout à fait particulière. Hein, ceux d'entre vous qui sont allés dans le sud-ouest du Maroc ou qui sont allés aux Canaries connaissent cette flore particulière avec beaucoup d'espèces grasses, hein, et souvent endémiques également. Hein, vous les avez, ces espèces, hein, vous voyez les euphorbes, ces euphorbes en forme de cactus, toute une série d'espèces tout à fait remarquables, rares, endémiques, donc à forte valeur patrimoniale naturelle. Cette flore, on l'appelle macaronésienne, hein, donc elle occupe le sud-ouest du Maroc, les Canaries, et éventuellement on va la trouver jusqu'aux îles du Cap-Vert. Et donc cette espèce endémique, sur un espace très restreint, pose des questions, hein, sur son extension passée. Et évidemment, beaucoup de botanistes se sont posé la question depuis longtemps, et évidemment, l'idée c'est que on aurait affaire à une espèce, c'est une espèce qui se rattache à une famille tropicale, hein, c'est la seule espèce extratropicale de cette grande famille des sapotacées dont on a parlé. Et donc, on se dit, eh bien, il y avait un climat tropical dans le nord de l'Afrique jusqu'au tertiaire, il y a à peu près 3 millions d'années, hein, donc c'est une relique de cette végétation tropicale. Il y a effectivement 2 à 3 millions d'années. Et puis les glaciations du quaternaire, avec le refroidissement, avec l'apparition du Sahara, ont éliminé cette flore et cette végétation, il n'en reste que quelques éléments. Alors c'est en cela, puis il y a quelques éléments paléobotaniques, hein, qui ont donné cette idée d'une vaste extension jusque dans la Méditerranée, hein, de cette espèce, il y a à peu près 3 ou 4 millions d'années. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il faut trouver des archives, hein, de cette histoire. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler il y a une vingtaine d'années sur une zone dans l'extrême sud du Maroc, dans la région de Tafaya, hein, où des études, recherche pétrolière, là en l'occurrence, hein, vous savez, on parle beaucoup de gaz de schiste et de pétrole de schiste aujourd'hui. Hein, dans les années 80, il y a eu beaucoup de travaux sur les schistes bitumineux un peu partout dans le monde, et en particulier dans cette région. Et donc, j'avais eu l'occasion de récupérer du matériel issu de ces travaux et d'étudier donc une carotte et des coupes qui ont été faites sur du Pliocène supérieur et du Quaternaire ancien, c'est-à-dire il y a à peu près 2 millions, un peu plus de 2 millions d'années. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur ces sédiments, on peut étudier, entre autres, la composition en pollen, hein, de ces sédiments qui documentent sur la végétation de l'époque. Et donc le pollen d'Arganier est un pollen qu'on peut très bien identifier, hein, et on peut effectivement avoir ici une image. Alors je rentrerai pas dans le commentaire de toutes les espèces présentes. On a effectivement quelque chose qui s'est déposé sur une zone littorale, etc. Donc il y a des apports de beaucoup de régions. On peut arriver à distinguer ces différents corps. Et vous voyez, l'arganier est très très peu présent dans cette flore. Hein. Si vous avez ici ces histogrammes, eh bien tous ces groupes polliniques sont assez importants. On va avoir du cèdre, dont le pollen vient par le vent, des choses comme ça. Et l'arganier est très peu présent. On est pourtant dans une zone qui est immédiatement au sud de l'extension actuelle de l'arganerie. Eh bien, en étudiant donc cette présence de l'arganier, en travaillant sur les différentes associations que l'on a ici, on est arrivé à faire une composition de végétation de cette époque, il y a 2 millions d'années, et effectivement, dans la zone où on a étudié ces dépôts, hein, on se rend compte que finalement, l'arganier était très peu présent. Ce qui est représenté, c'est plutôt cette formation végétale à euphorbiacée, cactiforme, que vous avez vu tout à l'heure. Hein, mais en même temps, ici, sur cette zone, on a des bois flottés, des bois qui sont transportés par la mer et qui arrivent, et qui auraient pu être des bois d'arganier. Or, ce n'est pas le cas. L'essentiel de ce qui arrive, là, ce sont des bois. Alors, il y a du cèdre en particulier, transporté. Et qui laisse entendre que la partie occidentale aujourd'hui de la montagne de l'Atlas était occupée par des cédrés. Alors, je ne vais pas détailler tout ce qui est sur cette carte, mais en fait, on se rend compte que vers le sud, l'arganier n'avait pas d'extension plus importante qu'aujourd'hui, et vers le nord, il ne devait pas avoir plus d'extension qu'aujourd'hui, puisque une partie de l'espace qu'il occupe aujourd'hui était occupée par d'autres formations forestières, en particulier des forêts de cèdres, là en l'occurrence. Donc, depuis au moins 2 millions d'années, hein, on a effectivement un arganier qui paraît très endémique, voire, à mon avis, plus restreint qu'il ne l'est aujourd'hui. Bon, voilà, on est à 2 millions d'années. Donc cette idée de la vaste extension de l'arganerie, hein, n'est probablement pas vérifiée. En tout cas, il y a 2 millions d'années. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'extension de l'arganier est plus importante que celle que nous proposons dans ces reconstitutions de paysages, entre guillemets, ou de végétation d'il y a 2 millions d'années. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'arganier, aujourd'hui, vous connaissez cette image touristique classique, hein, c'est l'arbre à chèvre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein, si vous êtes baladé dans ces régions, hein, vous avez vu ces chèvres dans l'arbre. Et aujourd'hui, effectivement, hein, l'arganier est fortement brouté. Le fruit, en particulier, est brouté. Et ce fruit, brouté par le bétail, hein, se germe après le passage dans le tube digestif des chèvres. Une graine d'arganier qui tombe au sol ne germe pas spontanément. Hein. Elle germe après passage dans le tube digestif de certains chèvres. Hein. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement les chèvres qui jouent ce rôle. Naturellement, il y a eu d'autres animaux qui ont joué ce rôle, c'était le mouflon, entre autres, à une époque, ou d'autres animaux. Hein. Donc, aujourd'hui, l'arganier, hein, si vous voulez, est une espèce qui est extraordinairement liée au système de production de la région. L'élevage, c'est un fourrage aérien, donc les fruits, et puis ensuite il va être intégré à tout un système agricole plutôt extensif, là en l'occurrence, hein, donc, où il va être maintenu, sélectionné dans les champs en particulier. Donc c'est une espèce qui va être protégée dans les champs, et on va avoir un système hein, où l'agriculture traditionnelle associe souvent le complantage, peut-on dire, de ces arbres sous forme de parc, un peu comme des savanes. Hein, on dit que c'est un paysage savanoïde, hein, il ressemble à des savanes. Et cette sélection s'appuie essentiellement sur la forte qualité hein, de cet arbre pour la production de l'huile d'argane, hein, qui est une huile traditionnellement utilisée, et c'est la raison de sa sélection et de son maintien dans le paysage actuel. Cet intérêt, si vous voulez, de production de l'huile d'argane par cet arbre, il est ancien, il est connu, il est en particulier décrit hein, dans la littérature depuis grossièrement le 10e, 9e siècle, mais on peut supposer qu'il était peut-être antérieur. Alors, voilà, j'arrive sur une espèce à forte valeur patrimoniale naturelle, héritée d'une flore très ancienne, hein, mais dont aujourd'hui, hein, c'est essentiellement son intérêt comme plante alimentaire hein, qui justifie très probablement son maintien, ou en tout cas la place qu'elle tient dans le paysage. Et du coup, si vous voulez, hein, on peut s'intéresser à la façon dont s'est faite cette distribution de l'arbalier. Et en particulier, ici, hein, on a un diagramme pollinique qui a été obtenu par des collègues au large de la zone actuelle de l'Arganier, et vous voyez que, je pense que c'est ça, hein, vous allez avoir effectivement une flore très très diversifiée, et ce qui nous intéressera ici, nous, c'est la courbe de l'Arganier. Et la courbe de l'Arganier, elle est très intéressante à observer. Vous avez ici l'âge hein, en année calendaire, hein, et vous voyez que, en fait, l'Arganier connaît l'Arganier existe depuis plus de 2000 ans dans la zone, hein, on le sait, il existait il y a déjà 2 millions d'années, il n'y a pas de problème, mais surtout, il y a à peu près 1000 ans, ou un peu plus de 1000 ans, il y a une extension de l'Arganier. Or, dans l'occupation de la zone, on sait que ça correspond à un changement historique en termes de peuplement, hein, qui est marqué grossièrement au 9e, 10e siècle après Jésus. Et donc, finalement, c'est très probablement en lien avec ce changement de peuplement et de mode d'exploitation de l'espace que se fait l'extension de l'Arganier. Probablement, l'arrivée postérieure, on la voit plus importante, de populations qui vont avoir un système agro-pastoral ou un système pastoral beaucoup plus extensif hein, qui va progressivement favoriser le développement de l'arcanerie dans sa forme actuelle. Et donc on a une explication à cette idée de quelque chose qui naturellement devait être beaucoup plus restreint dans sa distribution et qui est essentiellement étendu aujourd'hui du fait en particulier de l'élevage caprin qui assure la dissémination et l'extension de l'arcanerie. Hein? Donc cette période, si vous voulez, est très intéressante, alors qu'aujourd'hui, une partie de la préoccupation, c'est de savoir si les activités humaines ne détruisent pas cette formation ou cette espèce emblématique sur le plan de la biodiversité. Alors que, bien au contraire, c'est bien cet usage et l'arrivée d'un système pastoral extensif qui a favorisé l'extension. Donc l'extension actuelle dite endémique est probablement beaucoup plus anthropique que naturelle. Hein? Et du coup, on peut concevoir que la distribution biogéographique d'une espèce, hein, même endémique, peut être fortement associée aux activités humaines. Alors, le paysage, bien évidemment, a continué à se développer. Et finalement, l'activité humaine, elle n'a pas fait que étendre l'Arganier, elle a transformé les paysages, et une partie des paysages actuels sont bien évidemment marqués par de multiples dimensions historiques. L'Arganier, c'est plusieurs millions d'années d'héritage. Mais dans cet Arganier, dans cet Arganeret, on va trouver associé toute la flore dont je vous parlais tout à l'heure. Tout cela, c'est certes des héritages, un patrimoine qui est à l'échelle des millions d'années. Mais dans cet héritage à l'échelle des millions d'années, vont venir s'insérer toute une série de nouvelles espèces. Dans la région, une espèce tient une place très particulière, c'est le figuier de Barbarie, hein, qui est en train de se développer. Je n'ai pas eu le temps d'intégrer des photos que j'ai prises la semaine dernière dans cette zone. Le figuier de Barbarie s'étend de façon extraordinaire aujourd'hui, avec des plantations de figuier de Barbarie extraordinaires. Le figuier de Barbarie, hein, localement, on l'appelle Aknari, hein, c'est une espèce qui est arrivée au 16e siècle, par le biais des Portugais d'ailleurs, hein, mais qui est arrivée d'Amérique. Et Aknari, ça évoque l'arrivée par les Canaries pour la population actuelle. Et qui s'est étendu ensuite avec l'arrivée, évidemment, c'est les Portugais qui ont été les premiers à l'introduire dans la zone, hein, bien évidemment, les Canaries sont espagnols. Hein. Et donc, le maintien de cette céréaliculture sèche, l'association avec de nouvelles formes de culture, explique aujourd'hui le paysage de l'Arganeret. Hein. Donc l'Arganeret, c'est essentiellement un paysage très anthropique, où, évidemment, le pâturage et la chèvre... en particulier, est le moteur important, et puis, évidemment, la place de l'huile d'argan comme élément, disons, expliquant la mise en valeur de l'argan. Alors, cette entrée par l'huile d'argan est importante à voir aujourd'hui, même si, hein, si vous voulez, le paysage dans son ensemble est un paysage beaucoup plus complexe, hein, et qui se transforme très rapidement. Mais ce qui se passe dans la région aujourd'hui, c'est une ouverture de plus en plus importante sur l'international. Alors, évidemment, l'activité touristique de la région, c'est une région qui a, hein, une forte émigration vers l'Europe en particulier, et cette ouverture, elle s'est renforcée au cours des dernières années, en particulier par l'intérêt que l'on porte à l'huile d'argan avec des systèmes d'exploitation qui n'ont plus rien à voir avec ces systèmes traditionnels qu'on a vu se mettre en place il y a 1000 ans, grossièrement. Et les nouveaux enjeux de l'huile d'argan, en particulier la découverte de ses qualités nutritives, hein, dans les pays industriels plus riches, hein, avec la mise en place de nouveaux réseaux, de nouveaux systèmes de production. Vous avez sûrement à un moment ou à un autre vu des reportages sur la mise en place de ces coopératives féminines. Plus ou moins, alors il y a de tout, hein, comme coopératives féminines. Hein, je pense qu'il y a l'exploitation d'une ressource qui prend de l'importance sur le plan international et qui est en train, si vous voulez, de transformer complètement les réseaux de production et les systèmes de production, en particulier par la valorisation, hein, financière de l'huile d'argan. C'est-à-dire quelque chose qui, je suis originaire de cette région et j'ai vu changer le prix, par exemple, de l'huile d'argan pour les populations locales, et puis la demande internationale qui, bien évidemment, augmente le prix. Alors, ça nous éloigne de la thématique spécifique des paysages, mais pas tant que cela. Hein. Ça va poser d'autres questions dont on pourra parler, mais en particulier aujourd'hui, c'est quelque chose, hein, qui devient un élément très important de maintien de l'espèce, qui est une espèce effectivement ancienne, fragile, tout ce que vous voulez, qui pouvait être menacée, mais qui, bien évidemment, aujourd'hui, hein, prend une toute autre valeur dans le système économique actuel. Donc voilà un exemple, hein, à méditer. On reviendra derrière, tout un système de protection, etc. Et donc, la question de savoir comment peuvent évoluer les paysages, hein, issus d'un système d'exploitation traditionnel qui se transforme et qui s'intègre à l'économie mondiale, hein, de plus en plus, ça peut être une question à approfondir. Alors le deuxième exemple, hein, que je voudrais traiter pour illustrer ces places, si vous voulez, de la transformation anthropique des paysages, c'est quelque chose de plus proche de nous, dans tous les sens du terme, plus proche de nous géographiquement, plus proche de nous dans le temps. C'est l'exemple des paysages herbagés que l'on a en Normandie. Là aussi, c'est une question qui va être à discuter éventuellement sur cette représentation que l'on a des paysages. Je prends les paysages de l'air tout simplement parce que l'expression de la prairie normande, etc., c'est une expression qu'on utilise fréquemment. Comme je dis, je travaille plutôt au Sahel et en région aride, et puis quand on arrive et qu'on a une superbe savane verdoyante après une saison des pluies, l'expression classique, on dirait une prairie normande, hein, on est frappé par cette importance des paysages de l'herbe. Et ces paysages de l'herbe, hein, ils sont, comme on dit, emblématiques de la Normandie. Hein, ces paysages herbagés et bocagés, hein, avec évidemment les associations entre autres de pommiers à cidre ou éventuellement de poiriers. Hein, donc voilà, cette image elle est très importante parce que c'est l'image emblématique de la Normandie, c'est l'image qu'on se fait d'un paysage normand. Alors, quand on a travaillé avec des collègues de l'université de Caen sur ces paysages, alors, on a eu à travailler en particulier sur l'histoire longue, aller environnementale, que menait mon collègue Laurent Lespèce, et puis on a lancé avec ce collègue un travail sur l'évolution plus récente, c'est-à-dire les derniers siècles, l'époque moderne, hein, des paysages, et doctorante à l'époque, qui est une collègue de l'Université de Nanterre maintenant, puisqu'elle a été recrutée à l'Université de Nanterre, a travaillé sur les paysages depuis, disons, le XVIIIe siècle. Et c'est là qu'on se rend compte que, grossièrement, sur l'espace bas normand, l'essentiel des paysages, jusqu'au XVIIIe siècle, sont des paysages marqués par les labours, la production céréalière. Évidemment, pas de la production intensive, etc. Mais il s'agissait de produire du blé, de produire du froment, hein, vivrier. Ce système, il est probablement généralisé partout. Hein, dans l'ouest, en tout cas, de la France, j'ai étudié depuis des zones en Anjou, où on a un peu le même système. Jusqu'au XVIIIe siècle, pour l'essentiel, les systèmes vivriers céréaliers. Donc, l'herbe, elle est très peu présente, hein, peut-être dans certains fonds de vallée, hein, où on avait ce qu'on appelait la veine pâture, hein, c'est-à-dire des prairies accessibles à tout le monde, guillemets, hein, communes, hein, qui vont se transformer à la fin du XVIIIe siècle, hein, c'est la Révolution française, privatisation des communs en particulier, et on va voir se transformer ces espaces, si vous voulez, de fond de vallée. Mais pour l'essentiel, c'est des labours. Hein. Vous avez ici un exemple, hein, dans le sud du Calvados, hein, où vous voyez une carte. Alors, l'essentiel de cette cartographie, elle s'appuie sur un outil extraordinaire que nous avons en France, le cadastre napoléonien. Hein, c'est de l'information. Avant, on peut avoir un certain nombre d'informations. 18e siècle, vous connaissez peut-être la carte de Cassini, hein, qui était un outil, mais elle manquait de précision, hein, d'échelle. Le cadastre napoléonien, donc au début du 19e siècle, a permis de voir chaque parcelle et son affectation. Et donc, ça permet de pouvoir faire de la cartographie. Alors, on appelle ça le cadastre napoléonien. Il s'est mis en place un peu plus largement que le Premier Empire. Et vous voyez ici la situation au début du 19e siècle et la situation en 2003 sur ces deux communes. Le jaune, c'est essentiellement donc les labours, les champs, c'est rallié. Le vert, les prairies. Vous voyez qu'il n'y a aucune mesure. Aucune commune mesure. Si j'avais pris une carte des années 80, ça serait encore pire, hein, puisque ce qui s'est passé entre les années 80 et ici, c'est la fin de tout un système de la politique agricole commune, en particulier de subventions à l'herbe, etc., hein, qui a fait qu'une partie des prairies ont été à nouveau remises en culture depuis la fin des années 80. Mais si on regarde, si on était à la fin des années 80, on aurait du vert partout, pratiquement. Hein. Donc, situation qui est incomparable avec celle qu'on a connue il y a moins de deux siècles. Hein. Et pourtant, on est bien dans un espace herbagé. Je ne parle pas de la situation qui est celle de la plaine de Caen, par exemple, qui, elle, est restée céréalière tout au long du 19e et du 20e siècle. Et donc, si on veut comprendre ce changement, on a essayé de figurer cela un peu, disons, de façon symbolique, mais pour l'essentiel, c'est ces courbes qu'il faut voir. Donc, pendant toute la première moitié du 19e siècle, les labours sont dominants. Les terres en labour sont dominantes. Si on regarde des chiffres dans le département de la Manche, qui est Saint-Lô, Cherbourg, hein, dans le département de la Manche, qui est un département aujourd'hui herbagé, hein, vous savez, Saint-Lô, c'est l'école nationale de l'herbiterie, c'est Elévire, hein, qui sont là-bas pour se céder. Donc ces espaces sont des espaces aujourd'hui herbagés. En 1830, on avait 90% de la surface agricole en céréales, hein, en labour. Donc, la situation jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est des labours dominants. Et puis, c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'on va voir les prairies sortir des vallées et monter sur les versants et sur les plateaux. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette deuxième moitié du 19e siècle ? Plusieurs choses en parallèle. Et d'abord, hein, la sécurité alimentaire. Hein, avec l'intégration à l'échelle nationale, évidemment, de la production, des échanges, développement des moyens de transport, le chemin de fer en particulier. Hein, et du coup, les mauvaises terres de tout l'ouest de la France, hein, qui n'avaient pas forcément des vocations agricoles céréalières, mais qui étaient cultivées parce qu'il fallait assurer la sécurité alimentaire localement, hein, vont se transformer. Et il se passe les choses en même temps, c'est pour la Normandie, l'extension de l'agglomération parisienne. La mise en place du chemin de fer, la demande parisienne avec les transformations de mode de consommation fait que, du coup, la Normandie se spécialise dans la production bouchère et laitière. Il fallait fournir la capitale en viande. Secondairement, on produit laitier en viande. Et à ce moment-là, effectivement, les surfaces en herbe, vous voyez en vert ici, vont grossièrement, au début du XXe siècle, dépasser les surfaces en labour. Quand on regarde le passage à l'herbe de beaucoup de zones en Normandie, vous aviez ici la vallée de la Dive, le pays d'Auge, entre guillemets, et les marais du Bessin et du Cotentin, qui sont, eux, de vieux pôles herbagés, ça c'est ancien. Mais vous voyez la région de Saint-Lô, par exemple, elle passe à l'herbe, hein, c'est-à-dire dominance de l'herbe, entre 1880 et 1920, finalement au début du XXe siècle. Et une grande part du Calvados et de la Manche, hein, ou de l'Orne, passe plutôt dans le XXe siècle. Ce paysage de l'herbe, finalement, ben, il a un siècle. Parfois même moins dans certaines zones de Normandie. Et du coup, hein, si vous voulez, se développe ce paysage herbagé, bocager, une partie du bocage, pas partout, le bocage pouvait préexister, y compris avec des labours. Mais pour l'essentiel, le paysage herbagé et bocager, eh bien, il date de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il date de cette époque-là, sachant que, à partir des années 1950, modernisation de l'agriculture, mécanisation, il est à nouveau remis en cause, en tout cas pour sa trame bocagère. Et puis, hein, à la fin du XXe siècle, remise en cause, entre autres, des subventions à l'herbe, intervention des quotas laitiers, et du coup, on va changer à nouveau de système. Il se passe en même temps qu'on va passer à une politique de remembrement dans les années 60 et 70, tardivement dans certaines zones de Normandie, et du coup, on va voir revenir tout à fait à la fin du XXe siècle, de nouvelles surfaces en labo. Et du coup, hein, vous voyez, on est passé certainement à l'herbe au début du XXe siècle, il y a à peu près un siècle, ça n'a pas tenu un siècle, et c'est en phase de transformation. Mais le paysage emblématique de l'herbe, finalement, ben, il n'est pas si ancien. Il n'est pas si ancien que ça. Et qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime essentiellement les changements de système de production et de demandes, éventuellement, différentes. Alors ce volet, si vous voulez, hein, vise essentiellement à montrer que finalement, du point de vue, du coup, des paysages, pas de la nature, mais du point de vue des paysages, hein, c'est un mouvement permanent, une transformation permanente, hein, qu'il convient de se construire comme façon de voir ces paysages. Il n'y a pas de vocation fixe des paysages. Ils se transforment. En Normandie, évidemment, hein, cette image de l'herbe, c'est un héritage très récent, 19e siècle. Hein, et puis, aujourd'hui, hein, on a des politiques différentes, de la déprise agricole dans beaucoup de régions, donc de l'embuissonnement, de l'évolution vers de la forêt. Pas encore de forêt, la Normandie n'est pas un pays de forêt, mais donc c'est en train d'émerger, fermeture de certains paysages dans les vallées, en particulier sur les versants, donc une transformation tout à fait nouvelle que l'on a de nos paysages. Alors ça nous pose, effectivement, et j'arrive à ma conclusion, ça nous pose des questions sur ce qu'on appelle, nous, des paysages de référence, qui doivent être protégés, tout simplement parce que on est de plus en plus dans une logique de patrimonialisation de la nature et de patrimonialisation du paysage. J'ai repris ici, en Normandie, en simplifiant, en fixant les paysages de vallée, parce qu'on a surtout travaillé sur les paysages de vallée, la multiplicité, si vous voulez, des statuts de protection qu'on va avoir entre les zones Ramsar, les zones de parcs naturels régionaux, les ZNIEF, zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique, et ainsi de suite, des arrêtés préfectoraux. Donc cette patrimonialisation de plus en plus importante de la nature pose effectivement un certain nombre de questions, parce que il faut se référer à quelque chose. Qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on veut maintenir, hein? Et si, effectivement, on rentre dans ces logiques d'évolution et de changement permanent, ça nous interroge effectivement sur ce que nous appelons ces paysages de référence. Et donc ces paysages de référence, eh bien, il est intéressant de les questionner. C'est-à-dire, c'est des choix que nous faisons. Le paysage de référence naturel qui s'impose, en soi, il n'existe pas. Pour des aménageurs, pour des politiques environnementales, il est important, si vous voulez, de se demander, eh bien, finalement, quel est l'intérêt de connaître cette histoire ancienne des paysages et son évolution, et en particulier la place des hommes et des sociétés dans cette évolution. Alors, je ne ferai pas de conclusion, parce que l'essentiel, c'est de discuter. Moi, pour moi, il y a peut-être quand même quelque chose qui va être intéressant, en connaissant cette histoire, c'est d'éviter cette idée classique, en particulier dans les politiques de patrimonialisation, de subordonner les hommes à la nature. Ou, en même temps, vous voyez, de ne pas se mettre non plus dans une logique. Attention, je passe parfois, quand je fais ce genre de conférences, en Afrique en particulier, où je parle beaucoup du feu, pour un pyromane. Mais j'explique juste que le feu est un outil, de protection, peut-être, de certains systèmes de production, de maîtrise de l'environnement. Il n'a pas la même valeur pour le forestier, il n'a pas la même valeur pour le paysan, pour l'agriculteur, pour l'éleveur. Voilà, il ne s'agit pas non plus de subordonner la nature aux hommes. Il faut juste comprendre qu'il y a une relation dialectique, et que mesurer cette dimension historique de l'évolution des paysages, ça permet en tout cas de s'imposer au moins une idée générale, accepter l'idée du mouvement. Ça change. Et les hommes, ils sont pour quelque chose. Après, quelle étiquette on y met, quelle valeur on porte sur ces actions des hommes, c'est encore un autre débat. Et là, c'est l'histoire classique du jugement de fait et du jugement de valeur, c'est encore tout à fait autre chose. Je vous remercie de votre attention. J'étais un peu bavard.
Peut-être que certains d'entre vous veulent poser des questions à Aziz Balouche.
Ça ne veut pas dire que je saurais y répondre.
On va voir. C'était pour... on change de région. Je voulais discuter par rapport au tsunami du début du XXIe siècle. Je sais que des géographes étaient sur place. Est-ce qu'on a suffisamment de recul? Et est-ce que ça nous enseigne, enfin, ça donne des enseignements sur le passé? 15 ans après, est-ce qu'on sait les conséquences que le tsunami a eues dans les différentes régions? Est-ce que les régions très, très touristiques ont recréé le même environnement? Bon, je pense que oui. Mais est-ce que vous avez, il y a sûrement des variabilités? Et est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous savez là-dessus? Comment, après une telle catastrophe, l'homme a l'homme et les États et les politiques d'occupation des sols, d'aménagement, est-ce que vous avez des éléments là-dessus?
Ben, très, très, très concrètement, non. C'est quelque chose qui est effectivement dont je ne me suis jamais occupé. D'abord, personnellement, alors, il y a des collègues qui travaillent spécifiquement sur ces le rôle des événements catastrophiques. Hein, et les tsunamis en particulier ont cette spécificité de pouvoir être enregistrés dans les sédiments, par exemple, parce qu'on a effectivement des marques importantes sur le plan géomorphologique dans les milieux côtiers de ces événements catastrophiques. Donc il y a des collègues qui travaillent pour savoir leur fréquence dans le passé. Alors, il y a des choses différentes. Le tsunami, contrairement à d'autres choses, par exemple, le tsunami, ben, c'est la suite d'un tremblement de terre. Hein. Et du coup, c'est quelque chose où la place des hommes n'est pas présente sur l'événement. Hein. Par contre, la façon dont on occupe l'espace peut, effectivement, donner lieu à... une exposition à ce type de catastrophe plus fréquente. Et effectivement, vous parliez des installations touristiques, évidemment c'est celles qui nous ont touchés, nous, entre guillemets, européens, d'un événement qui se passe très loin. Et les systèmes locaux ont été également très très fortement impactés. Alors par contre, sur le rôle, il y a un autre fait peut-être sur ces éléments de tsunami, etc., c'est la façon dont, par exemple, les vallées, les fonds de vallées sont aménagés, occupés, qui peut changer complètement. Mais sur cette question-là, personnellement, je n'ai pas de connaissances précises. Désolé.
Il y a d'autres questions pour Aziz Balouche?
Bonjour et merci pour votre intervention qui était très intéressante. J'ai peut-être fait rebondir tout le monde, mais est-ce qu'on peut dire que finalement le hasard conditionne l'évolution du paysage?
Personnellement, je dirais non. Il peut y avoir des faits liés au hasard. Hein. On va parler des faits catastrophiques qui peuvent être tout à fait imprévisibles. Non, pour moi... L'histoire du paysage, alors, l'histoire des paysages, elle s'appuie bien évidemment toujours sur ce triptyque, hein, si vous voulez, de la dimension naturelle, parce que nos climats changent à l'échelle des milliers d'années, voire à l'échelle séculaire, les climats changent, voire sur des tranches de temps plus courtes. Je ne prononce pas sur les projections, tout à fait autre chose. Mais donc, les changements de climat, les changements de couverture végétale, etc., c'est un élément très important. À mon avis, du point de vue paysager, à l'échelle des temps qui nous concernent, hein, les derniers siècles, les derniers millénaires, et puis les siècles qui viennent, c'est les changements de système de production, hein, qui agissent, et l'organisation des sociétés. Hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, contrairement à la terminologie anglo-saxonne, je n'utilise pas le côté social. Hein, je parle anthropique parce que ça termine plus à la les dimensions sociales. Je parlais tout à l'heure de la révolution. Le changement de structure sociale d'une société, ou la différence de structuration sociale entre deux espaces, change complètement le paysage. Regardez les paysages de la DSA, ce qu'on appelle la DSA ou le Montado, c'est-à-dire ces paysages avec des arbres qu'on a dans le sud de l'Espagne et au Portugal. Hein ? On va avoir une différence importante au Portugal ou en Espagne de la façon dont se structure ce paysage, qui, sur le plan biologique, est composé des mêmes espèces. C'est du chêne liège ou du chêne vert, hein, ce sont des parcs arborés avec des chênes qui sont gardés dans un paysage méditerranéen. La structure de la propriété foncière au Portugal, où on a de la petite propriété, petit paysanat. Du côté espagnol, sur certaines zones, hein, les choses sont variées, où on va avoir de la grande propriété, essentiellement d'élevage de taureaux. Hein, vont changer la façon dont la densité de ces arbres, la façon dont va se structurer le sous-bois. Et donc, je pense que, effectivement, le hasard. Il y a toujours une part de hasard. Mais c'est l'évolution des paysages, c'est quand même principalement, à mon avis, les systèmes de production, les systèmes techniques vont intervenir. Il y a évidemment la structure de l'économie et la place. Je parlais de l'Arganié, l'intérêt international pour l'huile d'argane qui fait augmenter le prix amènera forcément des changements. Et puis le troisième volet, hein, comme vous disiez, il y a les éléments naturels, les éléments socio-économiques et de production. Et puis le troisième volet, le volet culturel. Et ça, c'est quelque chose. Je parlais du feu, hein, en Afrique de l'Ouest, ça change beaucoup la façon dont le feu est vu dans les différentes cultures. C'est simple, si on arrive avec l'idée que le feu est mauvais, ou si on a l'idée que le feu est un outil, ce sont que des représentations. On va avoir, évidemment, un traitement de ce facteur de façon très différente, et donc un impact sur le paysage. Hasard et nécessité, vous savez bien.
Merci pour votre exposé, parce que ça remet un peu en question sur une action de l'homme destructrice sur les images de nature qu'on a dans la tête et l'image de l'homme forcément destructeur de ça. Et par ailleurs, j'aurais une autre question, c'est alors là vous avez donné des exemples où l'action directe où l'action de l'homme est assez presque directe, et est-ce qu'il existe dans le monde des zones, on dirait, où cette interaction entre l'homme et la nature n'existe pas et que ce serait totalement naturel, ou est-ce que l'homme, même dans des zones non habitées, l'action de l'homme a une répercussion sur ces environnements là, de manière très lointaine.
Alors, première chose, effectivement, il y a des espaces très peu densément peuplés où l'impact des hommes est plus limité. Les grands massifs forestiers denses, humides de la région équatoriale, dans certaines régions, hein, mais pas partout. Hein. Si vous regardez les espaces du sud-est asiatique, ils sont très densément peuplés. Hein. Donc c'est pas la forêt dense humide équatoriale qui exclut l'activité des hommes. Et si on regarde l'Amazonie, hein, le terme de forêt vierge, souvent cité pour l'Amazonie, eh bien, les collègues ont fait des sondages dans certaines zones aujourd'hui totalement inhabitées, où on a des niveaux à charbon importants, hein, donc qui correspondent à des périodes de mise en valeur, en particulier par le brûlis de ces espaces de forêt. C'est également le cas dans le bassin du Congo. Voilà. Donc voilà, l'histoire des hommes fait que certains espaces qui peuvent nous paraître aujourd'hui totalement vierges, entre guillemets, ne l'ont pas toujours été, à des échelles de l'ordre des siècles. Donc première chose, donc, l'espace où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, comme dit l'expression, je ne sais pas s'il en existe beaucoup sur Terre. Alors on pense, c'est éventuellement les grandes calottes glaciaires peu impacté par l'activité humaine. Certes, peu impacté par l'activité humaine directe, mais en faisant des carottages dans ces espaces, on voit, hein, justement, et c'est ce qui permet, entre autres, d'enregistrer les évolutions du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère, etc. Donc, on voit bien que aujourd'hui, par exemple, surtout depuis l'époque industrielle, hein, on a une production de particules dans l'atmosphère, etc., qui peut se déposer sur ces espaces de calotte glaciaire qui ont un rôle important par la suite en termes de bilan énergétique de la planète. Donc, je pense qu'on a atteint aussi un système de fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui sur le plan technique, technologique, qui fait que l'impact est effectivement très fort. Quelles en seront les conséquences, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'impact de l'homme, il est pratiquement partout aujourd'hui.
D'autres questions ?
Donc, ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions plus, si vous n'osez pas, alors je dis toujours aux étudiants, si vous avez une question que vous n'osez pas poser, ne pensez pas que c'est parce que vous n'avez pas compris, c'est peut-être que ça intéresse d'autres personnes. Mais si vous voulez poser des questions individuelles, n'hésitez pas, je lis mon mail. Et puis, vous pouvez télécharger un certain nombre de travaux dont je vous ai parlé.
J'ai juste une petite question sur l'exemple de l'arganeraie. Donc, en fait, aujourd'hui, l'utilisation un peu plus intensive, je dirais, la valorisation de l'huile d'argan, ça pourrait se traduire, ou se traduit peut-être déjà, par quoi dans le paysage ? Est-ce que ça veut dire qu'on s'oriente vers des plantations d'arganiers ? Est-ce que ça pourrait prendre quelle forme ?
Oui, oui, oui. Alors, il y a certainement plusieurs impacts sur le paysage. Alors, parfois étonnant. Bon, première chose, c'est vrai que on a eu une tendance à la destruction de l'arganeraie, même si les systèmes de production traditionnels la maintenaient. Hein. Mais par exemple, dans cette région, la vallée du Sousse, du fleuve, hein, l'arrière-pays d'Agadir, c'est la grande région de production de primeurs et d'agrumes au Maroc. Donc, évidemment, la modernisation de ce système d'agriculture moderne, des arbres éparpillés comme ça dans le paysage, c'est mauvais. Donc, il y a eu une destruction importante dans toutes ces zones d'agriculture moderne, de primeurs en particulier. Donc, il y a eu une évolution dans ce sens qui, aujourd'hui, peut changer de sens, évidemment, si on a une telle valeur. L'huile d'argan a triplé en une dizaine d'années. Triplé, non pas en raison d'inflation, hein, véritablement, sur place. Et donc, l'intérêt international, c'est une espèce endémique, donc la zone de production est forcément réduite. Hein. Si on a un tel engouement cosmétique, vous savez, l'huile d'argan, elle a toutes les vertus, dit-on, je pense que là on va voir ce changement. Mais en particulier, il y a toute une orientation de la recherche aujourd'hui du végétal spécialisé pour assurer justement des boutures du clonage des individus les plus productifs, etc. Donc on change complètement la façon dont le paysage a été construit. On a des opérations de plantation, alors que jusqu'à présent il s'agissait d'un parc sélectionné, c'est-à-dire pour garder les arbres qui paraissaient intéressants et qui ont se constitué un paysage de parc arboré, hein, agroforesté, comme on dit, on est en train de changer effectivement le système. Un effet tout à fait particulier, le sud-ouest du Maroc, donc cette zone, c'est-à-dire, et l'arrière-pays, c'est une des régions où il y avait traditionnellement une forte communauté juive marocaine, dont Agadir, Essaouira, Tarouzane, etc., étaient des centres importants. Ces communautés juives sont encore présentes marginalement, mais l'essentiel de la population juive a migré dans les années 60 vers Israël. Il y a une communauté juive marocaine importante à Israël qui a gardé l'intérêt pour l'huile d'argan. Et donc, actuellement, en Israël, il y a des expériences importantes de plantation. Les deux pays de production de l'huile d'argan sur le marché mondial aujourd'hui, c'est le Maroc et Israël. Donc voilà une espèce endémique qui a été transférée dans une autre région, en lien, bien évidemment, là le lien est culturel, hein, puisque c'est quand même la communauté juive marocaine qui a été à l'origine de cette plantation. Mais bien évidemment qu'avec l'intérêt économique international, la plantation de l'argagnier en Israël n'a plus comme vocation que de fournir quelques dizaines de milliers d'Israéliens en devenir.
Eh ben, un grand merci à Aziz Balouche pour son exposé.
Merci à vous, merci de votre attention.
Je rajouterai que si vous avez encore quelques questions à lui poser, peut-être acceptera-t-il de boire un thé à côté en répondant.
J'espère que... Pardon.